C'est dans Ésaïe, chapitre 61, du verset 1er et verset 2. Ésaïe 61, verset 1 et 2. Ésaïe 61, verset 1 et verset 2. J'ai entendu le bruit des pages toujours. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous te demandons de nous éclairer en tant que lumière, pour que ta parole soit comprise et à mettre en pratique cette parole dans toute notre vie. C'est en ton nom, Seigneur Jésus, nous te prions. Amen. Le titre de notre prédication ce matin, c'est « Le libérateur du monde ». Le libérateur du monde. Et après la chute du couple adamique, le monde fut condamné à la mort, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Paul nous dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, dans cette situation affreuse, un libérateur était inéluctable pour sauver le monde de ses péchés. C'est le prophète Ésaïe, 700 ans avant Jésus-Christ, qui avait annoncé la venue du Messie comme libérateur du monde. Aujourd'hui, on parle de beaucoup d'hommes, et on parle de faux prophètes, mais sans mettre en valeur ce qui était annoncé. Avant même la venue de Jésus-Christ, le prophète Ésaïe l'avait annoncé. Alors Dieu, dans son amour, c'est lui qui s'est fait homme, descend vers nous pour nous libérer de l'esclavage du péché. Est-ce que vous étiez esclave? Aujourd'hui, on parle d'esclaves pour des humains qui vivaient dans l'époque et Moyen-Âge. Mais vous savez que vous étiez esclave du péché. Et quand on parle d'esclaves, ce n'est pas des choses faciles, mes frères et sœurs. L'esclavage. Donc, ce que Dieu a fait, il n'y a personne d'autre qui pouvait le faire. Libérer un peuple de l'esclavage, du péché. Mais alors, puisqu'il est venu parmi nous en tant qu'homme, pour nous libérer, ça veut dire qu'il y avait une naissance. Et la naissance de ce libérateur est démontrée dans la Bible. Depuis la naissance de Jésus, nous sommes témoins d'un prodige. Un prodige, c'est un fait extraordinaire. Comment une femme peut-elle être enceinte sans connaître d'homme? C'est un mystère. Comment un roi peut-il naître dans une étable sans que ce soit dans la Maison Blanche ou bien au palais Élysée? Un roi. On pouvait rouler toutes les enceintes de tapis rouges pour recevoir ce roi. Mais pourtant, il est né où? Dans une étable. Alors, tout ce qui est impossible à l'homme est possible pour Dieu. Car il est le maître de l'univers. Il est l'architecte de l'univers. Ésaïe avait prédit sa naissance, la naissance du Messie, dans Ésaïe chapitre 7, verset 14. Je crois bien que frère Samy l'avait déjà lu. Ésaïe 7, verset 14. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Est-ce qu'il y avait un autre homme qui portait ce nom et qui signifie Dieu avec nous et qui nous a libérés de l'esclavage du péché? Dieu avec nous, il est avec nous, il était avec nous, il est avec nous et il sera toujours avec nous. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle. Dieu n'est pas avec nous un matin et puis après-midi, il change d'idée. Non, il est avec nous toujours jusqu'à la fin. Jésus, il est né roi. Il est né sauveur et il est né seigneur. Il est la lumière du monde. Dimanche dernier, nous avons ce titre-là. Dieu, il est la lumière du monde. Celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il a la lumière de la vie. Dans Ésaïe chapitre 9, verset 1er, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Et cette lumière, c'est Jésus. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Dans Jean chapitre 8, verset 12, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc la Noël que nous célébrons aujourd'hui n'est pas ce que nous voyons. Les sapins, les arbres de Noël, les marchés de Noël, les foie gras, les gâteaux, les bûches, les messes minuit. Non, ce n'est pas ça la Noël. La Noël, c'est Dieu qui se fait chair et qui a habité parmi nous, pleine de grâce et de miséricorde. C'est la miséricorde de Dieu qui nous a permis d'être là ce matin avec notre fierté, puisque nous avons mérité la mort, la condamnation. Mais Jésus-Christ, il a pris notre mort et puis il nous a donné la vie et la vie en abondance. La nativité, c'est la loi qui fait place à la grâce. Vous savez, quand on était sous la loi, c'était œil pour œil, dent pour dent. Mais quand Jésus est venu, c'est la grâce qui fait place et Moïse à Jésus-Christ. La loi fait place à la grâce et Moïse fait place à Jésus-Christ. Et depuis lors, nous savons ce qu'on appelle le pardon. Depuis la venue de Jésus-Christ, nous savons à aimer ceux qui nous haïssent, à faire du bien à ceux qui nous font du mal. Regardons dans Ésaïe chapitre 11, verset 1 à verset 3. Pendant ce temps messianique, ce qui est écrit. Un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Et la justice humaine aujourd'hui, c'est sur les oui-dire. La justice humaine aujourd'hui, c'est sur la quintance. Qui êtes-vous? Même quand il y a malversation, pourvu que ce soit X ou bien Y qui était haut placé, vous pouvez entendre les nouvelles. Cette condamnation n'a rien à voir avec son casier judiciaire. Mais je vous dis ce matin, la justice de Dieu n'est pas la justice de l'homme. Dieu nous a rendus justes par la foi, parce que nous étions coupables à cause de nos péchés. Donc la grâce de Dieu aujourd'hui est source de salut pour tous les hommes. Cette grâce a été manifestée en Jésus-Christ. Parce que c'est en Jésus-Christ qu'il y a le salut. Dans Actes chapitre 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Jésus-Christ, il est le sauveur. Dans Ésaïe, puisque nous sommes sur Ésaïe, puisque c'est lui qui avait annoncé cette bonne nouvelle, c'est lui qui avait publié cette bonne nouvelle de délivrance. Regardez ce qu'il a dit. Ésaïe 55, verset 1er. Quand le salut était offert, et de façon gratuite, il dit, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Et pourquoi? C'est parce que le salut que nous n'avons rien fait pour l'avoir. Rien payé. Le salut est à nous de façon gratuite. Dieu nous a donné gratuitement ce salut. Et qui pouvait le payer, mes frères et sœurs? Ce salut, personne ne pouvait le payer. Voilà pourquoi Dieu nous l'a donné en cadeau. Et le cadeau le plus précieux qu'on puisse nous offrir, ou que nous pouvons nous offrir ce matin, c'est d'accepter Jésus comme Seigneur, comme Sauveur dans notre vie. L'accepter dans notre cœur, le laisser nous diriger, le laisser nous conduire, le laisser nous contrôler. Parce que si nous nous laissons diriger par l'Esprit, eh bien nous allons prendre les bonnes directions. Nous allons dire les bonnes choses. Nous allons accomplir de bonnes actions. Parce que nous sommes contrôlés par l'Esprit. Ce don si précieux est une marque d'amour. Parce qu'on ne peut pas donner de cadeau à un ennemi. Dans Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde. Hein? Il a donné son fils unique, le seul fils. Pourquoi? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, toi qui te connais, qui connais Dieu comme le seul, le vrai. Et cette vie éternelle, personne ne peut nous la ravir. Parce qu'il nous l'a donnée éternellement. Et non seulement la naissance de Jésus, le Sauveur, a étonné le monde, mais ce Jésus qui est né, il est aussi Dieu. Le libérateur du monde est Dieu. Sinon, nous ne serions pas ici ce matin. S'il n'était pas Dieu ce matin, nous serions encore esclaves du péché. Dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, verset que tout le monde connaît, un sauveur nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix. Qui est autre que ce Dieu que nous servons, qui est Dieu puissant? Qui est d'autre qui est Père éternel? Qui est d'autre qui est Prince de la paix? Aujourd'hui, le monde cherche à tort et à travers la paix. Les âmes meurtrières, les missiles, les bombes, est-ce qu'elles peuvent donner la paix? Non. Et nous pouvons constater la destruction des grands pays avec ces âmes. Mais nous cherchons la paix ce matin en Dieu, d'éternité en éternité, le prince de la paix est Dieu, c'est Jésus. Dans Ésaïe chapitre 22, verset 22, le prophète nous a démontré le pouvoir du Messie. Il dit, quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Vous n'êtes pas fiers ce matin de servir le Dieu quand il décide, personne ne peut se mettre en croix de sa décision. Parce qu'il est Dieu. Il y a beaucoup de tollés à travers le monde, beaucoup de murmures concernant et la décision du Conseil de sécurité de l'ONU. De demander à Israël de cesser de construire pour les pays occupés, les pays colonisés. Israël était resté toujours sur l'autorité des États-Unis. Et pourtant, c'est étonnant de voir que les États-Unis n'ont pas voté. Et la décision est passée. Ça veut dire qu'il faut apprendre à rester sous la protection de Dieu. Il n'y a que Dieu qui se déclare fidèle malgré tout. Je dis malgré tout parce que malgré nos péchés, Dieu, il nous aime. Et effectivement, c'est Jésus qui était né à Bethléem. Ce Jésus qui est Dieu, descendu du ciel, vient vers nous pour nous libérer de l'esclavage du péché. Il avait un ministère terrestre. Le ministère terrestre de Jésus était accueilli par des chants d'allégresse. des cris de joie. C'était une bouffée d'oxygène. Mais qui a été transformée par la vengeance et la jalousie. Ordinairement, dans les proverbes créoles, ici on dit, « Là, vous voulez laguer, crabe là, les modèles. » Eh bien, c'est ce qui est arrivé. Jésus, il est venu pour libérer. Eh bien, c'est lui qu'on a crucifié. L'hypocrisie a été manifestée parce que c'est Jésus qu'on avait acclamé. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et c'est ce même peuple qui dit, crucifie-les, crucifie-les. Imaginons la joie des peuples syriens, Alep, des peuples irakiens, Mossoul. Si le pape François pouvait dire à tous de rentrer chez eux sans crainte de représailles. Imaginons la joie du monde. Le monde serait explosé de jubilation si Donald Trump pouvait détruire tous les terroristes pour dire au monde entier paix sur la terre. Personne ne peut le faire. Pourquoi? Parce que le prince de la paix, c'est lui seul qui peut donner la paix. Personne. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous constatons, ce qui se passe à travers le monde, il y a un seul mot, intérêt. Intérêt. Vous avez du pétrole? Viens, viens, viens. Il n'y a plus de pétrole, va, va, va. Vous avez du pouvoir, viens. Tout le monde cherche à vous connaître. Tout le monde cherche à avoir des relations avec vous. Mais quand vous n'êtes plus au pouvoir, vous êtes au coin. Et Salomon, il l'a dit, la richesse attire les amis. Le pouvoir. L'argent, ça attire les amis. Il n'y a que Jésus qui peut faire ce que l'homme ne peut pas. Il n'y a que Jésus qui puisse donner la paix dans le monde entier aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il est le prince de la paix. C'était annoncé par Esaïe et Jésus même l'a déclaré. Regardez dans Jean 14, verset 27. Il était avec les disciples. Il y avait un peu de peur, un peu de frustration au milieu d'eux. Puisque, avec Jésus, quand ils sont malades, Jésus les guérit. Quand ils ont faim, Jésus leur donne à manger. Jésus avait satisfait tous leurs besoins. Et il dit, Jean 14, verset 27, « Je vous donne la paix. » Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Si vous avez Jésus dans votre vie ce matin, vous avez la paix avec lui. Et cette paix que l'homme ne peut donner, nous l'avons ce matin à travers Jésus-Christ. Nous avons la paix. Il l'a dit, l'Éternel m'a oint, hein? L'Éternel m'a oint. Pourquoi? Pour porter, pour proclamer aux captifs la liberté. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Dans Ésaïe 25, dans le verset 3 et 4. Isaïe 25, versets 3 et 4. C'est pourquoi les paix puissantes te glorifient. Les villes des nations puissantes te craignent. Tu as été un refuge pour les faibles, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur, car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. C'est Jésus qui nous donne la paix, et sans lui, c'est le chaos. C'est une déclaration de grâce et de consolation que Jésus avait faite dans Jean chapitre 5, verset 24. Dans Jean chapitre 5, verset 24, Jésus a fait cette déclaration pour nous rassurer. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ce matin, nous ne sommes plus des morts. Nous avons la vie éternelle. Dans notre étude biblique le mercredi soir, nous sommes en train d'étudier Éphésiens. Paul dit, nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Ça veut dire, si vous êtes là ce matin, vous avez Jésus dans votre vie, eh bien, vous êtes vivant. Vous avez la vie éternelle. Et c'est une grâce. Et malgré toute cette consolation que Jésus nous avait portée, eh bien, toute cette consolation lui a coûté la mort. La mort. Frères et sœurs, les hommes étaient toujours méchants. Et ils le sont encore aujourd'hui. Il y a beaucoup de démonstrations, des images que nous voyons aujourd'hui. C'est révoltant. Comment un homme peut-il mourir pour des impies? Et alors ce matin, c'est pour nous que Jésus, il naît. C'est pour nous qu'il souffre. Et c'est pour nous qu'il meurt. Il s'est lui-même livré à la mort pour sauver l'humanité. Il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour nous. Et malgré tout ce qu'on lui a fait, il nous intercède. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Quel homme, Jésus. Dans Ésaïe 53, verset 5, nous voyons qu'il n'avait rien fait. Dans le verset 5, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, que nous sommes délivrés, que nous sommes sauvés. Dans le verset 12, il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis à mort au nom des malfaiteurs. Parce qu'il avait porté nos péchés et qu'il intercède. Jésus, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et voilà pourquoi notre salut, nous l'avons pour toujours, puisque personne ne peut nous enlever ce salut que Dieu nous a donné à travers Jésus-Christ. Alors, notre joie ce matin, c'est que Jésus, oui, il est mort, sa divinité s'est prouvée, mais il est ressuscité. Il est vivant au siècle des siècles. Et s'il n'était pas vivant, il n'aurait pas pu intercéder pour nous. Et notre seule espérance ce matin, c'est que nous attendons le retour de Jésus-Christ. Je ne sais pas ce que vous attendez. Dans les pays et internationaux, soit d'où nous sommes sortis, eh bien, beaucoup de gens aujourd'hui attendent qu'on les appelle pour donner un numéro. Est-ce que vous avez ce qu'est ce numéro? Le numéro de transfert. Ah oui. Tout le monde attend que le diaspora les appelle pour leur envoyer un numéro de transfert. Vous envoyez de l'argent. Mais ce matin, nous attendons une chose. Nous attendons le retour de Jésus-Christ. Pour nous délivrer de ce monde. Nous attendons le retour de Jésus-Christ pour déposer nos fardeaux. Pour vivre en liberté de gloire avec le Seigneur Jésus. Le retour de Jésus-Christ est imminent. Nous ne savons ni l'heure ni le jour. Voilà pourquoi nous devons veiller. Daniel a expliqué ce retour dans le chapitre 2, verset 34 et verset 35. Quand il parle de l'irruption de la pierre détachée sans le secours d'aucune main. Vous comprenez ça? Vous pouvez voir une pierre sur l'Himalaya et puis qui se détache sans le secours d'aucune main. Dans le Nouveau Testament, c'est Jésus-même qui a parlé à ses disciples de son retour glorieux. Dans Jean chapitre 14, verset 1er, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Frères et sœurs, ce n'est pas une parole de campagne. Pour dire, à côté du pouvoir, on a un langage, à l'intérieur du pouvoir, on a un autre langage. Non, Jésus, sa promesse est certaine, il reviendra un jour pour nous chercher, afin que nous soyons avec lui. Quel jour, Goliath, quelle joie! En attendant le retour de Jésus-Christ, nous devons nous réjouir de cette promesse accomplie, de ce salut qui nous est donné. La Noël que nous fêtons, mes frères, mes sœurs, est une Noël d'amitié, une Noël d'amour, de paix, de joie, c'est une Noël de félicité, une Noël de fidélité. À travers la Noël, nous sommes réconciliés avec Dieu. Et de la même façon ce matin, nous devons nous réconcilier les uns les autres. S'il y a quelqu'un ce matin qui a un frère, une sœur, qui est sur son cœur, serré, avec qui il même pas, il peut même pas dire bonjour. Ne laissez pas ici sans avoir d'abord avec Dieu déposé le frère, déposé la sœur, et puis pour que votre cœur s'ouvre pour l'accueillir, parce que c'est ce que nous prêchons ce matin, la bonne nouvelle. C'est une nouvelle de réconciliation, c'est une nouvelle de pardon, c'est une nouvelle d'amour, C'est une nouvelle de fraternité. C'est une nouvelle de communion fraternelle. La Noël ne peut être célébrée chez vous quand vous avez sur votre cœur quelque chose contre Jean-Pierre, quelque chose contre Marlène. Nous devons nous réconcilier les uns avec les autres. On ne détruit pas la haine par la haine, mais on peut détruire la haine par l'amour. Et c'est ce que Jésus avait dit. Aimez ceux qui vous haïssent. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Donnez à manger à ceux qui ont faim, même quand c'était vos ennemis. C'est ça l'évangile. C'est ça la bonne nouvelle. Si ce n'est pas ça que vous prêchez ce matin, mes frères et sœurs, votre prédication, elle est vaine. L'amour accepte tout. L'amour supporte tout. Et voilà pourquoi, avec amour, on peut tout faire pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous avez de l'amour dans votre cœur ce matin, pour vos frères, pour votre sœur? Je vais vous laisser avec cette déclaration de Paul aux Philippiens. Voici ce que Paul avait dit aux Philippiens. Dans Philippiens chapitre 4, verset 7 et verset 8. Il dit aux Philippiens, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Joyeux Noël et que Dieu vous bénisse.